BFM Business et Takenco présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, fidèle à De quoi je me mêle. Comme chaque week-end, on plonge dans l'actu tech de la semaine avec nos spécialistes, avec à la fois évidemment tous les commentaires sur l'actu de ces derniers jours. Et puis tout à l'heure, en deuxième partie de ce De quoi je me mêle, c'est Christophe Joly qui nous rejoindra pour notre rendez-vous nostalgique. Et on s'intéressera quand même à un gros morceau, l'histoire de Google. Et oui, comment le moteur de recherche Google est arrivé? Comment a-t-il aussi laminé les Yahoo, les Lycos et autres? Christophe nous racontera tout ça, ça sera en deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Je vous rappelle que vous avez toujours l'hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte, et je vous rappelle aussi que De quoi je me mêle est en version audio, en podcast audio, mais aussi en version vidéo, à la fois sur BFM Business, mais aussi sur la chaîne BFM Tech. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Voilà, et sur le plateau de quoi je me mêle cette semaine, c'est Anthony Morel qui est là. Salut Anthony.
Salut François, salut tout le monde.
Ravi de te retrouver, Anthony. Toujours là, fidèle au poste, que vous retrouvez le matin sur BFM Business et à la mi-journée avec Estelle Denis sur RMC. Et Pierre Fontaine qui est là. Salut Pierre.
Bonjour à tous les deux, bonjour. Salut à tout le monde.
Assorti, évidemment, si vous êtes avec nous en vidéo, avec le fond magnifiquement bleu de quoi je me mêle, c'est incroyable.
On voit plus que sa tête en fait.
C'est ça,
je suis un fantôme flottant.
En fait, on est obligé de zoomer pour voir Pierre Fontaine. En plus, avec tes beaux yeux bleus, c'est magnifique.
Tu sais qu'on faisait ça à une époque, quand il y avait encore des fonds verts à la télé. Moi, j'avais fait des trucs où la cape d'invisibilité d'Harry Potter, où tu mettais un t-shirt vert et
exactement.
Tu disparaissais.
Ouais, mais des fois, ça marchait pas bien. Tu avais un bras qui disparaissait. Tu avais ton front aussi qui disparaissait. Ça faisait des bonnes séquences. Voilà. Alors, messieurs, l'actu est quand même assez riche. Il y a pas mal de choses à raconter cette semaine encore. Et on va débuter par Honor, qui lance en Chine un smartphone, Anthony, assez étonnant.
Oui.
Alors, est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça préfigure peut-être ce que sera demain le smartphone pour une certaine catégorie d'utilisateurs? C'est assez amusant, ça s'appelle le RoboPhone.
Oui, le RoboPhone. Alors, c'est assez rigolo, effectivement. Il y a un effet waouh qui est évident, puisque le principe de ce smartphone, c'est qu'à l'arrière, va sortir, quand vous appuyez sur un bouton du bloc photo ou de l'arrière du téléphone, une sorte de petit bras motorisé.
Ça fait super bien.
T'as vu, j'imite super bien le smartphone. Hein, on est d'accord.
On reconnaît pas si c'est là en vrai.
Vachement bien le robot.
Ouais, c'est niche, mais c'est
des années de pratique.
Ça peut le faire.
Il faut savoir que toutes les chroniques sont bruitées à la bouche sur cette antenne. C'est vous allez avoir.
C'est artisanal.
Eh bien, c'est très artisanal. Un petit bras motorisé qui va sortir, équipé d'une caméra. Donc, c'est un gimbal, en fait, hein, tout simplement, qui va sortir et qui va permettre de te suivre à la trace, de balayer la pièce, de viser le sol, de suivre un objet sans aucun tremblement. Donc ça va être hyper intéressant si tu te filmes par exemple, si tu te mets en scène. Donc on pense typiquement aux influenceurs, enfin aux créateurs de contenu, pas aux influenceurs forcément, mais aux créateurs de contenu en général. Pour nous, ce serait formidable. Je pense en reportage, tu peux imaginer des cas d'usage vraiment très intéressants où tu peux mettre l'appareil devant toi en mode selfie et puis il va te suivre de manière hyper fluide.
Ouais, c'est comme s'il y avait un petit caméraman derrière l'appareil en fait.
C'est vraiment ça. C'est comme ça si tu avais un caméraman embarqué dans le téléphone.
D'ailleurs, et en fait, Apple fait déjà ça. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes en selfie, il arrive à zoomer, à dézoomer quand vous bougez. Et tout.
C'est ça.
Donc c'est toujours assez fascinant.
En fait, c'est vraiment ça. C'est l'extension de cette technologie, sauf que là, tu as vraiment le hardware qui est dédié pour ça, qui est
beaucoup plus évolué.
Une vraie prouesse d'ingénierie hein, pour le coup, parce que ils ont quand même intégré ça dans un téléphone qui reste fin, qui fait moins de 10 mm d'épaisseur. Donc c'est pas un monstre, c'est pas une brique, et qui fonctionne relativement bien. En tout cas, il a fait pas mal parler ce téléphone parce que effectivement par rapport, j'allais dire dans la morosité ou dans la routine des téléphones qui se ressemblent tous un petit peu les uns les autres, et bien là on a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire proposé donc par le chinois Honor.
Et ce qui est chouette, c'est moi je trouve qu'il y a deux pans intéressants. Il y a le premier pan, c'est le partenariat avec Arri, donc le fabricant de caméras professionnelles qui a travaillé sur cette techno de caméra, effectivement, qui est stabilisée sur trois axes, qui peut tourner à 180 degrés, qui peut suivre les gens, etc., et qui devrait fournir un super résultat.
Je te coupe deux secondes, parce que Arri, on ne connaît pas forcément, mais c'est des caméras professionnelles de cinéma numérique. Par exemple, les Marvel sont tournés avec Arri.
C'est une boîte qui a plus de 100 ans. Enfin,
En termes de caméras cinématographiques, et depuis quelques années, qui se sont mis au numérique, bien évidemment.
Voilà, une caméra qui vous veut du bien.
Tout à fait.
Exactement,
elle est bonne.
C'est ça.
Donc, Harry A2RI, hein, voilà. Ouais. Pour ceux qui voudraient chercher, s'acheter une caméra pour les souvenirs de vacances, par exemple.
Oui.
Prévoyez bien. C'est le PEL quand même. Je n'ai pas les en tête, mais généralement, c'est
pas ça. Et prévoyez un gros sac à dos de la taille d'un espace, à peu près, si vous voulez.
Non, voilà. Elles ne sont pas si grosses que ça, mais oui, il y a du matériel. Donc, oui, il y a cette partie vidéo hyper qualitative, que je trouve intéressante. Et puis, il y a une petite partie intelligence artificielle aussi, derrière, même ouais. Moi, c'est ça que je trouvais, quand ils l'ont annoncé, c'est ça qui était c'est ce qui m'était plus en avant et ce que je trouve intéressant, c'est ce côté IA physique, vraiment, où on a cette caméra qui est là en permanence, quand on le veut, pour filmer ce qu'il y a autour de nous et pour nous conseiller sur comment s'habiller, sur les différentes choses à faire. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce que représente l'IA l'IA physique embarquée avec nous en permanence, ça peut être ce petit gimbal qui sort du téléphone.
Ouais. Oui, parce qu'en plus, alors on ne l'a pas précisé, mais il peut aussi hocher la tête, entre guillemets. Enfin, il y a un petit côté Wall-E, tu sais, embarqué dans le téléphone.
C'est vrai que quand il sort sa petite tête comme ça, d'un coup, ça lui donne un côté mignon.
Il y a un côté un peu mignon, donc ils l'ont designé aussi de manière, c'est exactement ce que tu disais, à faire en sorte que tu aies une sorte d'IA embarquée, mais qui sorte réellement du téléphone, qui prenne une forme physique, et ça préfigure peut-être effectivement le futur du smartphone. Alors après, bon, tu disais, est-ce que c'est un gadget et tout? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un peu gadget dans le sens où je ne pense pas que ce soit un produit mainstream. Je ne pense pas que les gens se ruent pour avoir juste la petite caméra périscope qui sort. C'est très sympa pour les créateurs de contenu. Au-delà de cette cible-là, je ne suis pas sûr. En plus, au-delà de la performance d'ingénierie, il faudra voir aussi la solidité. Certains des premiers testeurs disent que ça chauffe beaucoup aussi quand tu l'utilises un peu intensément. Donc forcément, enfin, ça peut pas être parfait non plus. Hein. Il y a quand même des contraintes physiques et mécaniques.
Ça s'enlève pas. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est intégré au téléphone
c'est ça.
Et qui se déplie quand vous appuyez sur le bouton. Donc imaginez quand même l'ingénierie de ce machin-là. Ouais. Les gars, ils ont dû galérer, les ingénieurs.
Ce qui est génial, c'est que, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, alors j'ai pas vérifié, mais que ça, en fait, ça a permis des innovations en termes de moteur, parce qu'il faut bien se dire que tous les petits mouvements, quand il secoue la tête pour dire c'est super ce que tu portes, ou quand il suit la personne qui filme, c'est des petits moteurs.
C'est bidon ce que tu fais.
Voilà, et ça, et tout ça, c'est des moteurs qui.
T'es jugé par ton smartphone.
Mais c'est ça. Pardon, c'est génial. T'es vraiment nul.
Ouais. C'est ça, ouais, bon, alors, est-ce que ça vaut le coup de lâcher dans ce cas-là? Je sais pas.
Non.
Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois encore, c'est de l'innovation qui pousse un petit peu les frontières de la robotique et qui va avoir forcément des applications plus tard, soit dans des robots domestiques, soit dans des petits robots compagnons. Et je trouve ça c'est toujours intéressant de voir les effets de bord positifs d'une innovation.
L'autre point intéressant, alors c'est un point qu'on redonne souvent, mais je trouve quand même que c'est pertinent, c'est le fait que ça vienne de chez Honor, ça vienne de fabricants chinois. Moi, je trouve que l'innovation en général sur les smartphones, aujourd'hui, c'est vrai que c'est de chez eux que ça vient. On voit bien que tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire aujourd'hui, toutes les tentatives, parce qu'on ne dit pas encore une fois qu'ils vont en vendre 100 millions, clairement pas, mais ils tentent des trucs et effectivement c'est des choses qui peut-être se retrouveront sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire qu'on va prendre telle brique technologique et puis ça a bien fonctionné, on va l'intégrer dans notre prochaine génération de smartphones ou dans des robots. Et ben en fait ça vient aujourd'hui de Chine, et ça je trouve quand même que c'est assez intéressant. On a vraiment eu un changement de centre de gravité là en l'espace de quelques années sur l'origine de l'innovation dans les smartphones.
Bon, alors le seul petit bémol, c'est que c'est pas la peine de vous précipiter en magasin, parce que ce produit n'est disponible qu'en Chine. Et j'ai eu le plaisir de recevoir l'un des porte-parole d'Honor il y a quelques jours dans Tech & Co qui nous parlait de ce produit-là. Il nous disait deux choses intéressantes. Il disait que finalement, les premiers retours qu'ils avaient en Chine, ce n'était pas forcément les créateurs de contenu. Il y avait plein de gens qui aussi voulaient une super qualité vidéo, etc., qui achetaient ce produit. Bon, après, c'est le porte-parole d'Honor qui me raconte ça. Donc voilà, je ne sais pas trop. Et puis la deuxième chose, c'est que peut-être que le deuxième modèle sortira en France.
Ah ouais.
Voilà, en Europe. Voilà,
Non mais c'est vrai, parce que quand on dit créateur de contenu, c'est vrai que nous on a peut-être un réflexe générationnel où on n'est pas tout le temps à faire des selfies en permanence, etc. Je pense que pour le coup, chez les jeunes générations, le côté caméra à selfie qui te
exactement
partout, sans être un créateur professionnel.
Mais tu fais des petites vidéos sur TikTok, Insta, etc.
C'est un argument de vente qui est probablement plus important que pour vous ou moi.
Et puis c'est aussi un marqueur, une fois encore, un marqueur générationnel, un marqueur de ce qu'on fait avec son téléphone. On n'a pas une brique classique, on a quelque chose qui sort du lot. Ça peut aussi marcher.
Ouais.
Et bien voilà, pour ce robophone, on enchaîne avec, toujours dans l'actualité du smartphone, mais d'une manière plus générale, un constructeur Il s'agit d'Apple. Apple qui a vécu une semaine un peu particulière, puisque ça a été quand même le départ de Tim Cook et l'arrivée de John Ternus à la tête donc d'Apple, hein, qui devient CEO. Ça y est, c'est officiel. C'est rigolo parce qu'il a fait un petit hello sur X. Je ne sais pas si vous avez vu. Parce qu'il n'était pas présent sur X, John Ternus. Il a fait un hello et puis d'un coup, paf, il a gagné des centaines de milliers d'abonnés forcément en quelques heures.
Facile. Je vais essayer aussi de faire hello. Ça marche. Je ne suis pas sûr. J'ai un doute.
La peine de se fatiguer.
On va essayer hello pour voir ce qui se passe. Je suis pas sûr, mais enfin bon. Et ben voilà, donc ça, c'est quand même un événement. Hein. C'est l'une des entreprises de tech les plus importantes au monde, si ce n'est l'entreprise de tech la plus importante au monde. Le fait que ben voilà, le commandant de bord change. Anthony, c'est pas anodin.
C'est pas anodin, et là encore, on parlait de changement de centre de gravité, et c'est peut-être de ça dont l'arrivée de John Ternus est le symbole, d'une certaine manière. Alors, c'est chez Apple, ils disent, voilà, il y a une continuité entre les deux, ils insistent vraiment sur le côté, voilà, il n'y a pas de rupture, et c'est vrai, enfin, je veux dire, ils ont fait ça, d'ailleurs, la transition s'est faite de manière très fluide, etc., mais ils ont quand même deux personnalités complètement différentes, et peut-être que ça va donner aussi une orientation en termes de produits un petit peu différente, ça qui va être intéressant à observer, parce que Tim Cook, d'une certaine manière, je simplifie beaucoup, hein, pardon pour les fans absolus, mais c'était vraiment le génie de la logistique, celui qui a réussi à faire en sorte qu'on arrive à envoyer des centaines, à fabriquer des centaines de millions d'iPhone et puis aller qu'ils sortent bien au bon endroit, au bon moment, etc. Ce qui est vraiment très très compliqué d'un point de vue industriel. Mais j'allais dire, pardon pour les puristes, mais côté révolution technologique, on est un petit peu resté sur notre faim. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, tu vois, sous son règne, il y a eu des choses très intéressantes, ouais. Mais en termes de vraiment nouveauté produit, ça manquait un tout petit peu, même si, encore une fois, rien à lui reprocher, il a fait fructifier l'héritage d'Apple, multiplier la valeur de l'entreprise par 10, donc les actionnaires sont très contents, et même les consommateurs, je veux dire, on n'a jamais acheté autant d'iPhone, donc voilà, tout va bien, mais voilà, il manquait un petit truc en termes d'innovation. John Ternus, lui, c'est vraiment monsieur produit, quoi. Il a été formé comme ça.
Ouais, c'est un ingénieur.
C'est
au
un ingénieur. Il a bossé. Alors, ça fait 25 ans qu'il est chez Apple, hein, mais il a bossé sur toutes les grandes familles de produits, sur les iPhones, sur les iPads, sur les Macs, sur la transition vers Apple Silicon aussi. Donc, vraiment, c'est un homme de hardware et qui va avoir, je pense, à cœur de continuer cet héritage et évidemment de miser sur les prochaines générations d'iPhone, mais peut-être de nous proposer des choses différentes. Peut-être d'aller vers des nouveaux types de produits. C'est ce qu'ont l'air de dire les analystes financiers qui misent sur le fait que Ternus va aller peut-être puiser dans la montagne de cash d'Apple pour faire plus de R&D, plus d'acquisitions, tester des nouvelles familles de produits avec de l'IA embarqué probablement, ce qui était l'un des virages ratés aussi d'Apple. Donc peut-être, voilà, on va avoir une orientation un petit peu différente. Ça va être intéressant à observer, en tout cas.
Ouais, c'est clair. Alors, tu connais bien cet univers-là, hein, ouais. Pierre. Tu vas nous donner ton point de vue. Moi, juste une chose, c'est que je me dis, quand on est à la tête d'une boîte comme Apple, est-ce qu'on a malgré tout les coups des franges pour faire ce qu'on veut ? Parce que tu vois, tu disais effectivement, ils ont véritablement deux personnalités différentes, etc. Mais est-ce qu'un John Ternus, qui a peut-être une débilité à lancer beaucoup plus de produits, est-ce qu'il a les coups des franches ? Est-ce qu'il a la possibilité de faire ce qu'il veut, finalement ? Tu vois, est-ce que tu dois rendre des comptes ?
Il y a toujours un board. Tim Cook est au board.
Du board.
Et puis, il y a aussi une réalité. Il y a une réalité des marchés. Il y a une réalité d'innovation aussi. On peut espérer plus de produits, etc. Mais le fait que les iPhones n'aient pas été totalement révolutionnés dans l'ère Tim Cook, c'est aussi qu'on était arrivé à une certaine maturité technologique.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les autres. Oui. Il n'y a pas eu d'innovation majeure, à part le pliant peut-être. Mais bon, visiblement, Apple y arrive aussi.
Oui, et encore, c'est une innovation, mais c'est une innovation pour quel usage ? Qu'est-ce que ça apporte comme usage ? Et jusqu'à présent, la révolution du smartphone pliant n'a pas pris le monde comme ça et l'a retourné d'un seul coup. Parce que, outre que c'est très cher, on n'a pas encore cette révolution d'usage. Alors peut-être qu'Apple va y arriver.
Apple va casser tout ça, comme ils l'ont fait déjà.
Effectivement, en revanche, je suis d'accord sur le fait que John Ternus, il a cette culture du produit. Il va être peut-être beaucoup plus insistant sur certaines choses, peut-être qu'il va pousser à l'innovation. Il a devant lui quelques jolis chantiers, outre le chantier de l'IA, qui est un chantier qui va, à mon avis, infuser tous les produits obligatoirement au fil du temps. Il y a les lunettes qui vont d'abord être dans un premier temps connectées avant de devenir vraiment intelligentes. Ça va être un sacré chantier. Il est évident que Srouji, qui est à la tête de toutes les puces, Johnny Srouji, il va se retrouver aussi à avoir un rôle plus important parce que si on veut innover dans le matériel, et Apple a pris cette voie-là, il va falloir innover dans les puces. Mmh. Donc on peut clairement espérer que c'est un homme de produit, donc il y aura plus un rôle plus important donné au produit, peut-être un peu moins au marketing. Mais ça reste Apple, ça reste une machine qui génère beaucoup de cash, qui a une continuité à assumer. Donc oui, il y aura pas du jour au lendemain, ça va pas changer. Et on va pas se retrouver avec des ruptures dans tous les sens. Mais on peut espérer qu'il y aura des beaux
produits. Et puis il y a le cycle de développement des produits. Ouais, il y a un temps long. C'est-à-dire que même si John Ternus se dit, on va inventer une friteuse avec Siri à l'intérieur. le temps de lancer ce produit-là, ça va prendre plusieurs années.
C'est vrai. Et je pense que c'est pour ça. C'est aussi ça va être intéressant de voir que là, sa première échéance, ça va être la semaine prochaine avec la keynote. On va avoir les premiers iPhone pliables et d'une certaine manière, c'est un très bel écrin pour lui parce que on arrive avec une vraie innovation du point de vue d'Apple.
Un changement.
Et donc c'est aussi un symbole. C'est genre j'arrive, je suis le nouveau patron et j'arrive avec un produit qui est nouveau, même si ça a été la gestation s'est faite sous Tim Cook.
Mais bien sûr, c'est ça.
Mais ça va être ça. Et les lunettes, exactement pareil. On sait qu'ils travaillent dessus depuis des années. Ils vont sûrement les lancer là dans les mois ou dans un an peut-être. Et là aussi, John Ternus, tu verras, il y aura plein d'articles qui diront. Ah bah voilà, enfin de l'innovation, c'est grâce à John Ternus.
Bon, après sans doute aura-t-il travaillé sur ces produits-là.
Évidemment,
il fait partie de la team qui aura développé ces produits avec Tim Cook
D'ailleurs, Tim Cook, certes, il était le CEO, certes, il déportait une responsabilité colossale, mais c'est pas un one man band. Il est pas tout seul dans son coin à dire on va faire ça, les autres suivent bêtement. S'il y a des senior vice présidents et des vice présidents en dessous, s'il y a un board aussi staffé avec des gens qui connaissent quand même pas mal les choses, c'est que c'est des changements stratégiques et des développements qui sont décidés à une sorte d'unanimité. Donc il n'y a pas demain, tout ne va pas changer. Demain, on ne va pas avoir des smartphones complètement révolutionnaires, enfin des iPhones complètement révolutionnaires, mais on peut espérer qu'il y aura des nouveaux formats de Mac. Le Neo en a une illustration. Ouais. On peut espérer qu'on va avoir de nouvelles gammes de produits, mais il ne faut pas imaginer non plus que Apple va sortir quelque chose que aucun sur le marché n'a tenté avant lui ou n'est en train de tenter. Apple a cette aura d'innovation qui est de rupture, qui a enclenché les choses grâce au premier Mac, parce que aux premiers Apple, Macintosh, et avant Apple 1, Apple 2, etc. Mais il faut bien se dire que maintenant, le marché de la technologie, c'est un marché qui est tellement entrelacé que c'est difficile de créer quelque chose auquel les autres n'ont pas pensé ou que les autres n'ont pas prévu.
Après, c'est possible. On peut très bien imaginer que miraculeusement,
la rupture de l'IA ouvre plein de potentiels.
Miraculeusement, ils aient l'idée d'un produit totalement innovant, disruptif, comme on dit, qui n'existe pas.
Moi, je les vois bien faire des incursions dans la domotique, dans la robotique. Pourquoi pas ? On peut imaginer ça.
Oui, c'est ce qui se laisse. Qu'ils aient travaillé sur Matter, le protocole domotique universel, entre guillemets, laisse entendre qu'ils ont compris l'importance de la domotique et que c'est une extension, une sorte de socle pour un écosystème encore plus riche et contrôlé par des produits Apple. Donc oui, ça paraît évident qu'ils vont y aller s'ils trouvent quelque chose à faire là-bas.
Et Tim Cook, dans son héritage aussi, alors c'est peut-être moins visible immédiatement que les produits révolutionnaires, mais on peut aussi mettre à son actif le push dans les services, qui a été un très très gros morceau pour Apple. Et là aussi, sur la valorisation d'Apple, ça fait partie des locomotives du groupe, le fait que tu n'achètes plus seulement un smartphone, mais tu achètes aussi des abonnements, plein de services, les applications évidemment, mais aussi la musique, les séries, etc. Et ça a été très, 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 très bien fait. La santé, et Tim Cook a souvent dit qu'il voulait qu'on se souvienne de son héritage, qu'on pense à Apple comme une entreprise de santé avant tout, avec les fonctionnalités, notamment de l'Apple Watch. Et je pense qu'on va avoir aussi des choses très intéressantes de ce côté-là dans les mois qui viennent. Et là où il a été très fort et où il va continuer, parce qu'on a. On dit qu'il part, mais évidemment, il reste au board, comme tu dis, et il sera quand même président du Conseil. C'est sur toute la partie quasiment diplomatique et géopolitique, c'est-à-dire le fait de gérer les relations avec Donald Trump,
de savoir arrondir les angles,
angles, gérer avec les gouvernements étrangers. Enfin, il y a tout ce truc de gérer l'approvisionnement en composants, les tarifs douaniers. Enfin, il y a tous ces sujets-là aussi. Quand on est un grand groupe technologique, c'est quasiment comme un État. Enfin, c'est un job de chef d'État en réalité. Ouais. Donc il a été quand même très très fort sur tous ces fronts-là, Tim Cook. Et il sera toujours
Oui, bien sûr.
J'imagine, il aura l'oreille de John Ternus sur ces sujets.
C'est clair. Dernière chose concernant Apple, c'est vrai qu'on est à l'aube de la keynote d'Apple qui arrive, je vous rappelle, le 9 septembre prochain, ce qui fait que dans le prochain De quoi je me mêle, on pourra vous dévoiler les nouveautés Apple. Est-ce qu'on sait tout, à ton avis, Pierre, sur ce qui va être annoncé, ou est-ce qu'il y a toujours cette petite... ce petit brouillard de mystère sur un produit caché.
On sait tout au conditionnel, toujours. moi, je ne prendrais pas le risque de dire qu'on sait tout. Il peut y avoir des surprises. Et très franchement, j'aimerais qu'il y en ait une. Je trouverais ça assez classe qu'il y ait un One More Thing pour une première. Il y a aussi une chose qui n'a rien à voir avec les produits, mais que j'aimerais voir revenir à la réalité, c'est une keynote live. Pas une keynote enregistrée. Ouais. Ça a son charme, c'est super rythmé, c'est très cinématographique, c'est super chouette, etc. Mais le côté quelqu'un qui monte sur scène, face caméra, qui fait des démonstrations devant les gens, revenir un peu. Oui. Après, s'il faut que John Ternus soit à l'aise avec ça, parce que si on s'en est éloigné, enfin si Apple s'en est éloigné, c'est que Tim Cook n'était pas non plus un showman énorme, même s'il a beaucoup gagné en aisance au fil du temps. Et qu'il aimait bien aussi mettre en avant les équipes. Mais je me dis que ça serait vraiment chouette qu'il y ait ce retour un peu au live. Voilà.
J'y crois pas trop, mais...
Non, j'y crois pas non plus.
Je suis complètement d'accord.
Mais j'aimerais.
J'ai l'impression qu'il a l'air un peu plus à l'aise que Tim Cook dans l'expression corporelle et devant le public, en fait.
On a vu, ouais. Tu l'as rencontré, toi, Pierre, ou pas ?
Je l'ai croisé, mais j'ai jamais discuté avec lui plus de « bonjour, ça va ».
Ouais,
c'est court, quoi, pour savoir un peu sa stratégie.
Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air très à l'aise.
Il y avait une intention dans son sens.
Pour essayer de comprendre sa stratégie, c'est un peu court, quand même. Ouais, donc iPhone pliant, normalement. Ça, c'est
normalement, voilà, oui,
c'est
donc
secret de polichinelle, mais visiblement, on devrait y avoir droit.
Si on ne l'a pas, ce sera vraiment la déception. On a tellement, tellement parlé.
Avec ce format innovant, passeport
ouais, qui est vraiment... Alors, évidemment, c'est l'iPhone Ultra, a priori, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais j'ai joué un petit peu avec l'équivalent en format de chez Samsung, et c'est vrai que c'est super agréable. C'est vraiment... Enfin, je trouve que ça donne un vrai sens au pliant, avec un modèle très compact plié qui gagne bien en espace, aussi bien horizontalement que verticalement quand on le déplie, et pour plein d'usages, en fait, que ce soit pour lire un livre, pour jouer ou pour regarder des séries. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le bon format.
C'est vraiment le mix entre le fold et le flip.
Ouais, il y a un peu de ça.
Enfin, c'est vraiment le mix entre les deux, quoi. Parce que c'est vrai que le fold, enfin, c'était quand même... Et tu as un fold.
Ouais,
hein.
c'est
super, mais c'est quand même assez imposant, c'est bon. Lourd, ouais, c'est bon. Épais. Et visiblement, là, on est sur un format un peu hybride.
Ouais. Et surtout, là où on peut avoir des espoirs un peu fous, c'est que Apple maîtrise parfaitement l'OS. Ouais. Et que moi, j'avoue, je rêve, alors peut-être pas là, mais effectivement, bon, l'interface iPadOS, par moment, ça devrait être le cas, mais que ces générations, les générations suivantes, soient une sorte de Mac killer, au sens où on a un téléphone compact, on a une petite tablette quand on veut avoir une petite tablette, et on la branche à un petit hub, et on a un vrai Mac avec la puissance qu'il faut, et une interface et macOS.
Techniquement, c'est possible.
Techniquement, c'est possible.
Parce qu'il y a assez de puissance aujourd'hui.
Enfin, c'est les mêmes puces.
Le MacBook Neo, c'est la puce d'un iPhone qui a deux ans.
Tout à fait.
Donc c'est totalement possible.
Tout à fait.
Après, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est aussi pour Apple peut-être se tirer une balle dans le pied, parce qu'au lieu d'acheter trois produits, t'en achètes plus qu'un.
Oui, mais c'est ce qu'Apple a toujours dit. Hein.
Ah, oui.
Apple a toujours dit, il vaut mieux se cannibaliser soi-même que laisser les autres le faire. Donc est-ce que ça a un sens pour eux ?
Ils ont tué l'iPod.
Et de toute façon, ça
avec l'iPhone.
Oui,
c'est ça.
Voilà.
Hein.
Et puis il y a un moment, tout le monde ne va pas sauter le pas parce que ça sera un appareil à au moins 2000 euros, on va dire. Il y a encore des gens qui vont dire, moi je préfère avoir peut-être pas un iPhone ou un iPhone pas très cher que je vais prendre en reconditionné, et puis un Mac d'entrée de gamme, et j'arriverai pas
c'est
à cette facture-là.
C'est séduisant ce qu'il dit.
Pour moi, eux qui sont les chantres et même les rois, l'intégration matérielle logicielle, s'ils arrivaient à faire ça, ça serait vraiment splendide.
C'est rigolo parce que Samsung a essayé de faire ça, et ça n'a jamais décollé.
Non, ça pas.
Avec leur téléphone Samsung, tu le branches en fait sur un écran, et tu te retrouves avec... Mais alors bon, c'est Android, c'est ça le problème.
Il n'y a pas la même maîtrise d'application. Ouais. Pas forcément, enfin il y a plein de questions qui se posent.
Voilà, si tu te retrouves avec un iPadOS, macOS, tu vois.
J'avoue, je serais fan.
Ouais, ça serait pas mal. Il te manquerait plus que le clavier, finalement. Ouais,
après, on a un petit clavier, une souris, on s'embête pas. Et si on veut pousser le vis, l'écran externe peut
faire
trackpad.
Exactement, peut faire trackpad.
Allez, hop, voilà, on n'en parle plus.
Ouais.
Et Voilà, bon, on peut rêver.
Non, c'est vrai. Hein,
bah, bien sûr.
Ouais, c'est cool.
On verra la semaine prochaine.
Voilà. Ouais, tout ça.
Ça, je pense pas que ça. Enfin,
non, ça,
mais
non,
pas bah, j'y crois pas tout de suite. Ça, non. Ouais.
Et alors, c'est rigolo. Dernière news concernant Apple, et puis après, on enchaînera sur Dyson. C'est que visiblement, l'iPhone 18 ne sortirait pas là à la rentrée. Mais il serait décalé et pourrait arriver au printemps prochain.
Oui, c'est bah, c'est ce que disent les rumeurs.
Je veux dire, il y a pas mal de changements sur le, on va dire, sur le calendrier timing, ouais, de sortie, ouais, des, alors, des produits.
Enfin, selon certaines rumeurs, les rumeurs qui avancent ça, ça serait aussi en grande partie lié à la pénurie de composants sur certains éléments, enfin, stockage et RAM, ça pourrait expliquer ça. Ou alors, est-ce qu'ils veulent sortir, s'ils sortent un modèle Ultra, il y aurait donc du Pro, du Pro Max et de l'Ultra, donc du très haut de gamme à un moment, ouais, et puis on aurait un E et un...
Et peut-être
un
modèle, que le E disparaîtrait finalement.
L'entrée de gamme et du milieu de gamme, entre guillemets, enfin, au milieu de gamme, au printemps. Enfin, il y a une stratégie qui doit être en train de se décider et qui peut être aussi une stratégie d'occuper l'espace, okay, et de faire en sorte que les ventes, les cycles de vente soient toujours en quinconce, quoi.
Voilà pour Apple, on en saura plus rumeur, ouais, la semaine prochaine. Anthony, l'hygiène dentaire.
Pourquoi tu te tournes vers moi, je ne sais pas.
Parce
il y a un message
pas
caché.
Pas du tout. Pas du tout. Tu as une hygiène irréprochable.
C'est gentil.
Tout le monde le dit. Même à la télé, on le voit.
Ah, c'est vrai.
C'est ça qui est fou.
Il n'y a pas l'odeur, c'est pour ça.
Un odorama. Mais,
s'il vous plaît, les amis, attention. Non, ce qui est intéressant, c'est que en termes d'hygiène, on parle rarement d'hygiène dentaire dans
c'est
le Quoi Je Me
Mêle.
C'est pas un sujet qu'on évoque tout le temps.
Non.
Mais ce qui est amusant, c'est que là, l'hygiène dentaire se marie avec la tech, avec un nouveau produit Dyson qui vient de sortir.
Oui, c'est ça, une brosse à dents assez particulière, équipée d'une caméra qui va filmer, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de votre bouche. Ouais, ça fait marrer tout le monde, en fait. On voit les images, en plus, pour ceux qui nous regardent à la télé ou sur YouTube. C'est vrai que c'est assez étonnant comme
concept. C'est sympa de se faire un selfie des caries.
Oui,
moi,
c'est vraiment ça. On parlait du robophone tout à l'heure.
Allez, les caries, souriez.
Là, tu vois.
La dent de sagesse, là. Mets-toi sur le côté.
L'idée, c'est de voir ce que voit ton dentiste, d'une certaine manière. Donc, en gros, avec cette caméra qui analyse 28 images par seconde, tu vas scanner en temps réel et bien tout ce que tu es en train de brosser et surtout tout ce que tu es en train de rater, c'est-à-dire toutes les petites saletés dans les interstices, les petits morceaux de poulet qui restent, les trucs un peu filants. Pardon d'entrer dans les détails, mais bon, faut bien vous expliquer à quoi ça sert. Et donc, à partir de ça, à partir de cette caméra, eh bien, on peut voir là où on a raté un peu de brossage et on va pouvoir se brosser de manière...
Comme si ça scannait tes dents, quoi.
Ouais, c'est ça.
En fait, la caméra, elle sert aussi, alors il y a le côté... Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui... Peut-être qu'il y a certains influenceurs qui feront des lives brossage de dents, je ne sais pas. Mais mais tout est possible, je ne juge pas. Mais elle sert aussi il y a une petite IA dedans.
Oui.
Il y a une IA qui a été entraînée sur des clichés et pour effectivement voir quand il faut... Parce que alors, la caméra s'appelle... La brosse à dents s'appelle Caméra Jet. Donc, il y a une caméra...
Et il y a un jet.
Merci. Donc pas un jet privé. Enfin, s'il est à toi, il est privé.
Oui, mais il est là. Voilà. Mais tu peux pas aller très haut avec. C'est ça que je veux dire, quoi.
C'est un jet d'eau ou qu'on boit après ses brosses dents actuellement. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de 3-in-1. On a à la fois le brossage de dents, à la fois le fil dentaire et à la fois le petit truc qu'on boit, enfin qu'on boit pas, non, mais le bain de bouche qu'on fait une fois qu'on s'est brossé les dents. Parce que le principe, c'est normalement, c'est 3 minutes pour tout faire. Et là, c'est en fait, les gens, il y a des études qui disent que c'est en 45 secondes le brossage de dents est fait.
Les Français sont pas très bons d'ailleurs.
Voilà. Donc là, en fait, l'idée, c'est de gagner du temps en faisant un 3-in-1. Et donc, cette caméra, elle sert à l'IA à savoir quand il faut pulser le petit jet avec quand même une pression de 9 bars. J'ai vu une pression de 9
ça
bars.
Ça remplace le fil dentaire, en fait.
Les dents vont faire des tours sur elles-mêmes. C'est wouhou! Voilà, ça va être
non, mais c'est un peu, enfin ouais, moi je trouve technologiquement c'est hyper intéressant. Après,
il y a 38 brevets déposés pour cette brosse à dents. C'est très Dyson,
non, mais Dyson, voilà, ils sont très forts pour ça, tu vois, sur l'innovation technologique, nous proposent des produits absolument incroyables. Après, je pense que c'est vraiment un produit de niche que personne va acheter,
ne serait-ce que pour le prix.
Voilà, ça coûte quand même 500 balles, enfin c'est 500 dollars je crois, donc
oui, donc 489 euros,
oui, enfin voilà, donc
une paillote,
500 dollars,
un peu serré des dents.
ouais, la brosse à dents, qui est en plus énorme. Donc, même en voyage, tu la prends pas là, parce qu'elle est quand même, enfin, le manche est quand même très très costaud. Je pense que pour avoir la possibilité de regarder, parce qu'en fait, quand tu vois la manip, en plus, je trouve que c'est assez peu naturel. C'est-à-dire que tu vois la personne qui a une brosse dans la main et donc dans la bouche, et puis dans l'autre main, ton smartphone qui te montre les dents en temps réel. Enfin, franchement, moi, quand je me brosse les dents, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, j'ai envie de me vider la tête, j'en sais rien, je fais autre chose, je regarde la télé, j'en sais n'importe quoi. Mais franchement, je pense que ça a assez peu d'avenir. J'y crois pas tellement.
Est-ce qu'il y a des succès? Hein, tu as brossé cette molaire trois fois.
Oui, mais tu sais, bien vu. En fait, c'est aussi pour ça que je dis que j'y crois pas, parce qu'on a vu, ça fait des années qu'on voit sur les grands salons tech, tu sais, des brosses à dents connectées, ouais, alors qui vont pas jusqu'à filmer l'intérieur de ta bouche, mais qui, grâce à des capteurs, te disent où tu es bien passé ou pas. Donc, tu as une représentation stylisée de tes dents sur une application, et tu vois, donc c'est une gamification, on te montre ce que tu as bien brossé, pas bien brossé et tout. Et on disait, c'est génial, surtout pour les enfants. Bon, en fait, je connais pas grand monde qui en est, donc ça, c'est pas devenu un produit mainstream, donc a priori, ça a pas connu un succès extraordinaire, même si l'idée de base, tu peux te dire que ça part d'une bonne idée. Mais je pense que c'est complexifier un geste qui doit quand même rester assez simple, quoi. On n'a pas besoin de ça.
Moi, j'avoue, j'ai pas vu le produit en main, mais se pose aussi la question des accessoires. Quand il faut changer la tête, qu'est-ce que tu changes? J'espère que la caméra n'est pas changée avec la brosse.
Non, mais tu as raison.
Durabilité de l'ensemble.
Tout ce qui est consommable, c'est parce que bon, ça, évidemment, ça coûte 480 euros, mais après, il faut que tu changes la brosse au bout d'un moment, comme une brosse à dents normale, parce qu'après ça ressemble à un balai brosse et ça marche moins bien.
Ils vendent le bain de bouche.
Il y a le bain de bouche,
le gel, le machin.
Le dentifrice, parce que leur dentifrice ne mousse pas trop, parce qu'évidemment, si ça mousse trop, ta caméra, elle est aux fraises, on ne voit plus rien. Donc il y a tout ça, donc c'est quand même pas pour tout le monde ce type de produit.
Ah non, bah déjà,
et puis moi, j'aimerais bien savoir aussi si ça apporte quelque chose. Est-ce que ça évite des caries? Est-ce que ça améliore de manière impressionnante l'hygiène dentaire et ça évite d'aller chez le dentiste régulièrement?
En plus, le truc, c'est que tu te dis, je pense que si on imagine un monde parfait où une personne a déjà les moyens, s'achète la brosse à dents, l'utilise
comme
tous les jours, deux fois par jour, comme il faut, avec le téléphone en main, avec le gel qui a été bien mis pour te faire l'équivalent du fil dentaire et tout. Ouais, probablement que ça a un avantage. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que, bon, déjà, t'as pas forcément les moyens, et que si tu l'achètes, tu vas le faire deux fois avec ton téléphone en main, et après, tu vas plus jamais le faire avec le téléphone en main. Je vois pas quelqu'un à vie se brosser avec son téléphone dans la main pour vérifier s'il se brosse bien les dents.
Ils vont lancer un accessoire, un miroir à 1000 euros, qui sera connecté à la brosse, comme ça, tu pourras voir ta bouche directement. J'ai une idée pour Dyson.
Énorme respect pour Dyson, parce que franchement, ils font des trucs
incroyables. L'innovation est rigolote, mais effectivement, le prix d'entrée qui, à mon avis, colle effectivement à l'investissement, est tellement démesuré que...
C'est chaud. Juste une précision, j'ai pu interviewer James Dyson à l'occasion
de
son produit.
Oui.
L'intégralité de l'interview est disponible sur le replay de Tech & Co. Que vous retrouvez sur l'appli de BFM Business, mais aussi sur BFM Tech. Vous avez de quoi je me mêle, vous avez tous les programmes de BFM Tech et vous avez en fait le replay de tous les Tech & Co du jour. C'était le Tech & Co de jeudi, interview exclusive de James Dyson qui nous explique tout ça. Je vous en dis pas plus parce que...
Parce qu'il t'a brossé les dents. Pour
Je l'ai brossé dans le sens du poil, forcément. Désolé, là on est au bout du rouleau. C'est le week-end qui arrive, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Dans l'actualité, allez, encore une nouveauté pour tous les fans de son. C'est vrai que moi, dès que Sonos sort une lingette, j'en parle. C'est ça qui est terrible.
Mais elles sont moins chères que celles d'Apple, ça.
Et puis il y en a pas, surtout. Donc c'est ça qui est pratique. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les produits Sonos pour tous ceux qui nous suivent régulièrement. Ils ont annoncé de nouveaux produits. Alors déjà, leur appli marche mieux. Je sais pas si vous êtes des utilisateurs de Sonos, mais je trouve que leur appli qui avait été énormément décriée, qui leur a fait perdre leur CEO. Enfin, ça a été une catastrophe, cette appli. C'est dingue d'ailleurs. C'est un cas d'école. Je pense que ça devrait être enseigné dans les grandes écoles de marketing, comment une appli peut tuer une boîte.
En tout cas, nuire à l'utilisation de
l'écosystème. Donc ça, ils ont récupéré ça. Et puis là, ils sortent trois nouveautés. Pierre, je ne sais pas si tu as un petit peu suivi. Donc il y a deux produits hardware. Il y a une nouvelle Sonos Beam Ultra, qui est une barre de son. Vous savez que Sonos fait pas mal de barres de son. Là, ils en sortent une qui est moyen de gamme.
À 700 balles.
À 700 balles.
Enfin, c'est moyen de gamme.
Moyen de gamme chez Sonos.
Voilà, c'est du moyen de gamme pour des barres de son un peu musclées et chiadées. C'est du moyen de gamme, mais ça reste cher pour le Kidam, on va dire.
Avec du Dolby 7.1.2. Alors, ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que, véritablement, il y a des haut-parleurs qui projettent le son vers le plafond.
Ouais, par rapport à la génération précédente, en fait, c'est pas du Atmos virtuel ou simulé. Oui. Ils disent que c'est du vrai
Atmos. Du vrai Atmos qui rebondit, en fait.
Donc, effectivement, il y a les 7 haut-parleurs, la voix de basse centrale, et puis deux haut-parleurs qui vont projeter le son vers le plafond pour cette impression Atmos, parce qu'on vous rappelle que Atmos, normalement, c'est un son qui entoure l'auditeur ou le spectateur, en l'occurrence, et qui permettent d'avoir une impression d'être encore plus immergé dans l'action ou dans le match ou dans ce qu'on regarde, enfin, peu importe. Voilà. Et donc, il y a cette Vim Ultra qui a l'air pas mal. J'avoue qu'elle fait un peu envie. Ne serait-ce que moi, ils m'ont eu sur le vrai Atmos. J'aimerais bien essayer.
Ouais, c'est clair.
Toi, t'as une Beam, François ?
Ouais, moi j'ai une Beam. Alors moi, j'ai une Arc Ultra, pour tout te dire. Ah, j'ai une Beam aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que la qualité du son est vraiment bonne. Ouais. Ça booste le son de ta télé, parce qu'en général, les télés à écran plat, le son est horrible. Ah. Et donc là, tu te retrouves quand même avec quelque chose de sympa. T'as quand même des basses. Et t'as un son, surtout, qui est intelligible. Moi, je l'ai remarqué. Parfois, tu sais, les haut-parleurs des télés à écran plat sont tellement mauvais que les voix deviennent inintelligibles.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et là, d'un coup, tu te retrouves avec quelque chose de super. Et quand tu te regardes un film ou quand tu écoutes de la musique, parce que c'est ça qui est cool avec Sonos, c'est que ça va restituer le son de ta télé, mais avec l'appli, tu vas pouvoir attaquer ton Apple Music, ton Spotify, enfin tous les services de streaming musicaux, Deezer, Amazon, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, alors, le deuxième produit, c'est un casque. Ils mettent à jour leur casque. Ouais. Alors, le premier n'a pas été un grand succès, ça.
Non, effectivement.
Et là,
il est sorti il y a 2 ans, c'est vrai.
Voilà, un nouveau modèle qui se veut encore meilleur avec 10 micros.
Ouais. Pour l'ANC, ouais.
Voilà, il peut se connecter directement au système Sonos et donc tu peux. Et on pouvait le faire aussi, c'est-à-dire que par exemple, tu mets ton casque. T'as une barre de son Sonos, tu peux désactiver la barre de son Sonos pour pas réveiller ta famille et avoir le son de ta télé qui arrive directement sans fil sur ton casque.
Ouais, c'est cool.
C'est pas mal.
Ouais.
Voilà. Enfin, y a plein de trucs comme ça à tester aussi. Et alors, ce qu'il y a de dingue...
Il est 50 euros moins cher que la génération précédente.
Il est 50 euros moins cher.
C'est pas mal. Ouais.
Et puis, la dernière chose aussi que je voulais vous évoquer, c'est l'IA qui arrive dans Sonos.
Sonos 27, ouais.
C'est étonnant le fait que tu puisses maintenant piloter ta barre de son depuis ChatGPT, par exemple.
Ouais. Mais en fait, c'est l'intégration, c'est un petit peu la quête qu'on retrouve partout dans la tech en ce moment, hein, c'est interagir naturellement avec ces terminaux, pouvoir avoir des choix plus précis, plus personnalisé pour la musique. Évidemment, il y a toujours l'IA pour la programmation quand on installe le produit au départ pour mieux le caler dans la pièce. Enfin, ouais, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup d'IA dedans.
Mais attends, tu lui demandes quoi via ChatGPT ? J'ai pas compris.
Par exemple, tu peux
lancer de la musique,
tu peux lancer un truc de musique
dans ton chat de ChatGPT.
Ah ouais, ouais. Ok. Et donc tu peux, alors en langage naturel, tu peux dire fais-moi une ambiance. Ouais. Enfin, c'est pas seulement lance-moi tel morceau de musique. Quoi. Voilà. J'imagine, tu peux, t'as une intelligence.
Par exemple, tu lui dis, écoute, si par exemple t'as plusieurs systèmes sonos, tu peux dire, écoute, lance-moi dans la chambre telle musique.
Ok.
Et lui, il va comprendre que c'est dans telle chambre et il va envoyer la musique.
Ah,
c'est amusant, je trouve.
Ouais,
et j'imagine que c'est que le début parce qu'après tu pourras créer des routines, je pense. Enfin,
il parle de custom agents. Alors, j'avoue que ça encore, j'ai pas essayé, j'ai pas vu ce que ça donnait. Mais effectivement, des sortes d'agents IA un peu personnalisés qui vont reconnaître la voix, qui vont avoir des fonctions spécifiques, etc. etc. Ça, j'avoue que sur le papier, ça a l'air très bien. Ouais. Qu'est-ce que ça donnera au quotidien avec les produits ?
Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche avec les anciens produits, tout ce qui est ChatGPT, etc. Et ça marche à partir du 8 septembre parce qu'il y aura une grosse mise à jour de l'appli. Voilà. Pas mal quand même.
Ouais, c'est riche.
Pas mal.
Une rentrée, c'est riche.
Ouais, il y a pas mal de trucs. Hein.
Et
la semaine prochaine, ça va être chaud encore. Hein. on parlera de Tesla aussi parce qu'il y a pas mal de petites actus Tesla. On n'a pas le temps là, Anthony, mais la semaine prochaine, on fera un gros morceau Tesla parce qu'évidemment, il y a le sujet de la voiture autonome qui pourrait arriver en France bientôt, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Anthony Morel, BFM Business et chez Estelle Denis sur RMC à la mi-journée. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint donc de BFM Tech. On va se retrouver à la fin de cette émission avec les quelques petites minutes supplémentaires dans la version audio de quoi je me mêle. Un grand merci d'être là. Et dans un instant, c'est Christophe Joly qui nous rejoint sur YouTube et à la radio, à la télé. On va vous raconter l'histoire de Google avec Christophe. Merci de nous suivre. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. Notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. Salut Christophe.
Salut François.
Christophe, aujourd'hui nous allons nous plonger dans, on va dire, l'une des innovations qui aura le plus marqué les internautes de ces 25 dernières années, 30 dernières années quasiment.
Hein. Il est dans notre quotidien.
Dans notre quotidien.
Tous les jours, ouais. Plusieurs fois par jour, sans toujours qu'on le sache peut-être.
Et c'est Google.
C'est Google.
Et en ce 4 septembre, en plus, c'est amusant, comme quoi les hasards de la vie, c'est un anniversaire pour Google aujourd'hui.
Ouais, ouais, c'est le jour, en 98, où le nom Google est déposé. En fait, la société est créée. En septembre 98, effectivement.
Donc il y a 28 ans.
Ouais, donc il y a 28 ans.
Incroyable.
Je te fais un petit flashback. En 98, c'est l'année du lancement de l'iMac. iMac, tu te rappelles, hein, cet ordinateur tout en un avec ses couleurs très jolies qui arrive un an après l'arrivée, le retour de Steve Jobs chez Apple. Internet commence tout juste à s'imposer. On surfe sur Netscape et Internet Explorer. Les connexions sont principalement fixes, on tourne à 56 kbps via des modèles.
Avec le petit modèle qui faisait gouing gouing gouing.
Ouais, le petit bruit dont tu te rappelles. Le câble et la DSL sont expérimentaux. Ouais. Pour télécharger un fichier de 10 mégas, il fallait à peu près 25 minutes. Donc il fallait être patient aujourd'hui.
Et ça coûtait une fortune.
Et ça coûtait une fortune.
Parce que ça monopolisait ta ligne téléphonique, ouais. On s'en souvient.
Le Wi-Fi n'existe pas encore pour le public. La France compte 1 million d'abonnés à Internet. Aujourd'hui, on en a 33 millions. Les moteurs de recherche, puisque c'est notre sujet, on surfe sur, ils ont recherche sur Yahoo, AltaVista, Lyco, tu te rappelles du chien. Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque et la messagerie instantanée s'appelait ICQ, si tu te souviens également.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que Google est arrivé avec une nouvelle promesse en fait. Ouais. Ils ont révolutionné le moteur de recherche.
Ils ont révolutionné effectivement avec un moteur de recherche plus fiable, plus rapide. Ils ont développé un algorithme en fait, c'est Larry Page et Sergey Brin qui sont étudiants à Stanford, ont eu cette idée en 96 de faire mieux quand on recherche sur Internet. Comment? Grâce à un algorithme qui évalue l'importance d'une page sur la base du nombre et de la qualité des liens qui renvoient vers la page. Et c'est PageRank. C'est ça vraiment qui fait la différence par rapport aux autres. Alors il faut savoir qu'avant de s'appeler Google, Google ne s'appelait pas Google, ça s'appelait Backrub. Et finalement, ils ont décidé de s'appeler Google. Tu sais pourquoi Google?
Non.
Google, parce que Google, ça correspond au chiffre 1 suivi de 100 zéros. Et en fait, c'est révélateur de leur ambition d'organiser une quantité immense d'informations disponibles sur Internet. Alors Google est différent des autres moteurs de recherche. C'est une page blanche, un logo et une barre de recherche.
Et en plus,
c'est simple à l'extrême.
Il n'y avait pas de pub.
Et il n'y avait pas de
pub. Parce que déjà, sur les Yahoo, les Lycos, etc., tu arrivais sur la page d'accueil, tu avais plein de pubs.
Et c'est à ce moment-là qu'arrive aussi, si tu connais, forcément que tu connais, les Doodles. Le premier Doodle, c'est le 30 août 1998 pour signaler la présence des fondateurs au festival de Burning Man. Et désormais, le Doodle, hein, c'est assez récurrent à chacun des événements nationaux ou internationaux. C'est la thématisation du logo. Il faut savoir que Google va à contre-courant du marché. Yahoo et tous les autres veulent garder les internautes. Il y a une boîte mail, des news, des éléments financiers, la météo. Or, Google, il te renvoie vers un lien pour que tu quittes Google. Donc, tu n'as pas vocation à rester sur Google, en fait. C'est là où ça fait vraiment la différence. Le nombre de requêtes est à 10 000 par jour à ce moment-là, au moment du lancement. Tu vas voir que les chiffres, évidemment.
Et qu'est-ce qu'en dit la presse à l'époque quand tout le monde découvre Google?
Ben, ils sont surpris, ils sont étonnés. En fait, PC Mag dit que le site a une capacité étonnante à retourner des résultats extrêmement pertinents. Washington Post dit, lors de mes tests, Google trouvait presque infailliblement aussi bien les résultats évidents que ceux qui étaient très difficiles à trouver. Et Zero Net dit que c'était un bijou, pas moins. En 99, Google lève 25 millions de dollars. Et Sergey Brin dit à l'époque, un moteur de recherche parfait traiterait et comprendrait toutes les informations du monde, je dis bien toutes les informations du monde, c'est là où Google veut aller. Ça en dit beaucoup hein, sur les ambitions de la marque. Le bouche à oreille marche super bien, selon une étude qui a été réalisée en 99. 90% des personnes interrogées déclarent qu'ils recommanderaient Google à un ami. C'est premier atout. Hein.
Bien sûr.
Tout le monde veut.
Quand on a goûté, et on s'en souvient.
Bah oui.
Nous, on est de la génération Google, quoi. Hein, et quand on a goûté à Google, après, on n'est plus sur les autres,
autres moteurs de recherche. Et on verra que les parts de marché des autres moteurs de recherche se sont littéralement écroulées
très vite.
Google est devenu ultra dominant assez vite. En septembre 99, donc un an après, le moteur traite 3 500 000 de recherches par jour, 6 millions en décembre. Donc tu vois, ça a plus que doublé, presque doublé en 3 mois. Mais on recherche toujours majoritairement sur Yahoo,
Yahoo a encore plus de la moitié du marché.
Okay. Donc Yahoo tient le coup encore.
Ouais, Yahoo tient le coup, mais en juin 2000, Yahoo signe un contrat avec Google. Google devient le moteur de recherche intégré de Yahoo. Okay. Il faut savoir que c'est le fondateur de Yahoo, David Filo, qui a suggéré au fondateur de Google de créer Google à Stanford 3 ans auparavant. Et en fait, ils expliquent qu'ils ont mis du temps à se décider par paresse ou lenteur naturelle parce qu'ils étaient étudiants. En clair, ils n'avaient pas le temps.
C'est rigolo quand même que c'est le cofondateur de Yahoo qui a coulé, qui en donnant une idée à Google, a coulé sa boîte.
Sa propre boîte avec laquelle il signe un contrat.
C'est assez savoureux quand même. Hein.
C'est assez savoureux, on peut le dire. En août, il lance les premiers liens sponsorisés. Et ce qui va vraiment changer la donne, c'est en octobre 2000, il lance les AdWords. Donc là, pour le coup, ce sont les pubs en lien avec les recherches. Donc, tu vas faire une recherche sur un matelas. Tu auras de la pub sur le matelas. Et le modèle économique va reposer là-dessus. C'est là où Google va vraiment performer, au-delà de la qualité de son moteur de recherche.
C'est malin, ça. Hein.
En décembre 2000, ils sont à 100 millions de recherches par jour. Ouais. On te compte, hein. Décembre 2000, hein, ils étaient à 10 000 en 98, ouais, en deux ans. Donc, c'est déjà énorme. Alors, Google, c'est pas que le moteur de recherche. On va le voir. En 2004, il lance Gmail. Le truc de Gmail, interface très sobre, hein, comme pour le moteur de recherche, mais ils font la différence avec une capacité de stockage vraiment importante, 1 giga. Yahoo, sur ta boîte mail, tu pouvais stocker 4 mégas.
Oui, donc ça changeait.
Bah, ouais, ça change complètement la donne. La recherche est puissante, le moteur intégré à la boîte fonctionne très bien. C'est la première brique de l'écosystème Google, parce qu'on va voir, ça va beaucoup plus loin que ça. Ils s'introduisent en bourse, peu de temps après, 23 milliards de dollars de valorisation, 27 milliards au terme de la première journée de cotation. Ils ont gagné 4 milliards en une journée.
C'est dingue.
C'est quand même des chiffres astronomiques à l'époque. Ensuite, ils lancent Google Maps en février 2005, Street View en mai 2007. Et on va voir, ils n'arrêtent pas de lancer de nouveaux produits, de racheter beaucoup de boîtes. Hein. Ils font beaucoup, beaucoup de croissance externe. Mmh. Au cours de l'existence de Google, ils ont racheté plus de 250 entreprises.
C'est dingue.
250 pour une valeur de chiffre connue à 40 milliards de dollars. Donc là, ils font beaucoup de rachats. Ils rachètent Android. Android, qui est une boîte, hein, qui a développé un OS mobile. Leur idée, bah, c'est de mettre Android et Google dans les téléphones mobiles, sachant qu'à l'époque, les téléphones stars, ce sont les Motorola Razr V3 et le Nokia 6230i.
Ouais, on est vraiment très très loin du smartphone.
Bah oui, parce que l'iPhone n'existe pas, il sera lancé en 2005. Ouais.
2007,
pardon. Là, on est en 2005. L'iPhone lancé en 2007. La série S de Samsung n'existe pas non plus. Et le premier smartphone tournant sous Android sortira en septembre 2008. Si tu te souviens, c'est le HTC Dream.
Tout à fait, ouais.
Alors, l'idée de Google, c'était pas de devenir un constructeur, si ce n'est qu'il l'est devenu avec le premier téléphone Google en 2016, qui était le Pixel. Il rachète YouTube, dont on a parlé au printemps dernier à l'occasion des 20 ans. Ça, un milliard.
Un gros morceau, quand même.
1,6 milliard de dollars, ouais. Ouais, un très, très gros morceau. En 2008, il lance Chrome. Voilà, pour concurrencer Firefox et Internet Explorer, bah, pourquoi un navigateur, évidemment, c'est la première porte d'entrée au web, donc c'est parfaitement logique. Il faut savoir comment, à ce moment-là, Internet Explorer a 70% de part de marché. Donc, ils vont à nouveau prendre l'ascendant sur, oui, sur le navigateur.
En fait, Chrome a fait du mal à, évidemment, Internet Explorer, mais aussi beaucoup à Firefox.
Ben, bien sûr, ouais, bien sûr. Et moi, je fais partie de ceux qui sont partis sur, ouais, sur Chrome, parce que tu as toute la suite en fait, mmh, intégrée. Tu as TikTok, tu as Drive, ouais, ouais, tu as YouTube, tu as tout ce qu'il faut. En 2009, Microsoft s'attaque à Google en créant Bing. Alors, sachant que MSN Search avait été lancé au même moment que Google en 98, mais on en a beaucoup moins parlé, mais Bing, c'était vraiment frontal avec Google, avec un succès relatif. Hein. On va le voir tout à l'heure. En 2011, ils rachètent Motorola, si tu te souviens, pour la somme coquette de 12 milliards de dollars. Leur idée, c'était de racheter non pas un constructeur de téléphone, mais des brevets, oui, parce qu'ils ont racheté 17 000 brevets. Ils vont revendre Motorola ensuite pour 3 milliards de dollars 2 ans plus tard.
Mais dépouillé de ses brevets.
Voilà,
quasiment.
Dépouillé de ses brevets. Une petite tentative de concurrencer Google en 2013, Quant, dont on parle assez peu, qui a émergé à un moment donné dans le cadre de la protection des données personnelles, mais finalement Quant ne sera jamais très, ouais, très costaud.
Qui était la réponse aussi européenne à Google, hein, européenne, voilà, parce que évidemment tout ça est américain. Donc.
Tout ça est américain, ouais, et c'est un sujet également. Et l'IA, dès 2014, il s'empare du sujet en rachetant à nouveau DeepMind, qui est un laboratoire londonien dédié à l'IA. Et DeepMind, on en a parlé parce qu'en 2016, ils ont fait un tournoi d'AlphaGo, ce jeu, en homme-machine, un peu à l'image de Deep Blue avec Kasparov, Deep Blue d'IBM. Et là, pour le coup, la machine gagnera 4 fois sur 5 contre un champion coréen. Donc, c'est là où on a beaucoup parlé. Et ça veut dire que Google a compris que l'IA est un vrai sujet. Ils s'en sont emparés bien avant que ça devienne un énorme à l'image d'aujourd'hui. Alphabet est créé en 2015, c'est un élément important, ça veut dire que Google devient une filiale d'Alphabet, et Alphabet en fait est la, oui, la holding,
c'est ça.
Et ils vont détacher tout ce qui relève de la voiture autonome, de l'IA, de la santé, et Google est consacré à tout ce qui est moteur de recherche, boîte mail et autres. Bard. Tu te rappelles de Bard ?
Oui, Bard, c'était en fait, l'ancêtre de Gemini, finalement. Ouais, hein. C'était la réponse, d'ailleurs, de Google à ChatGPT.
À ChatGPT, qui a été lancé 6 mois plus tôt. Ouais. Tu te rappelles du lancement de...
Ouais, ça a été une catastrophe.
Catastrophe. Ouais, James Webb. James Webb, en fait, ils ont... Donc c'est ce télescope. Hein, télescope, ouais. Ils ont fait une démonstration et, en fait, il a fait une énorme boulette puisqu'il a dit que le télescope avait pris toutes les premières photos d'une planète en dehors de notre propre système solaire. C'est une bourde parce que ce n'est pas le cas. La première photo a été prise 17 ans auparavant. Ce qu'a fait James Webb, c'est qu'il a identifié une première exoplanète. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, c'est pas pareil.
Donc ça, c'était faux. Le truc le plus problématique, c'est qu'en avril 2023, elle a généré des contenus négationnistes. Ah, donc là, ils ont bien fait de changer de nom. Oublions Bard.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Bard est mort-né finalement. Il a été transformé en Gemini.
Ouais, ils ont bien fait parce que c'était un vrai boulet. Bon, il y a quelques échecs hein, quand même. C'est Google Plus, si tu te souviens, qui voulait concurrencer Facebook.
Leurs réseaux sociaux, ouais.
Fiasco absolu. Ouais. Google Glass, dont on a déjà parlé, hein, qui a été lancé en 2012, arrêté en 2023. Et Stadia, on n'en a pas beaucoup parlé, jeu vidéo en ligne, dans le cloud, qui a été lancé en 2019, arrêté en 2023.
Oui, ils avaient investi beaucoup d'argent, ils avaient même racheté des studios
pour produire des jeux. Et après, ils ont arrêté la production de jeux. Alors pour Google, ce ne sont pas des échecs, parce qu'ils considèrent que c'est expérimental, ils ont appris, ce qui est probable. Et puis à l'échelle de Google, finalement, ce n'est peut-être pas grand-chose. Alors aujourd'hui, Google, c'est 91% des recherches effectuées sur le web, et Bing, dont on a parlé, 4,5%. Ouais. Et les autres ont quelques miettes.
Bing n'a pas réussi à transformer l'essai.
Non, pas transformer l'essai. Le nombre de requêtes estimées chaque jour dépasse les 8 milliards. Voilà, 8 milliards, c'est quand même juste considérable. Donc ils ont racheté 250 entreprises. Alphabet fait 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une capitalisation boursière de 4 000 milliards. Mais Google Services présente encore 85% de l'activité d'Alphabet. Donc c'est quand même central dans l'activité d'Alphabet. Google, c'est vraiment le cœur du réacteur.
Et notamment la publicité.
Et notamment la publicité, évidemment. Ils ont trouvé un modèle qui marche toujours. Mmh. Alors ils vont beaucoup investir sur l'IA. Hein. C'est le nerf de la guerre. L'enjeu de Google, désormais, c'est imposé en matière d'IA, comme il s'est imposé sur son secteur d'activité. Selon Sundar Pichai, le patron de Google, l'IA est le plus grand changement de plateforme de notre époque. Sauf que là, il fait face à des concurrents sévères, hein, parce qu'on a OpenAI et Anthropic, et là, c'est le début d'une nouvelle guerre, en fait.
Exactement. Et Perplexity, c'est vrai que le défi de Google, c'est de transformer en fait la recherche en une recherche intelligente et textuelle finalement. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. C'est arrivé. Je ne sais pas si vous avez testé hein, sur Google. Maintenant, quand vous tapez une requête, vous avez Search AI et là, vous avez une espèce d'explication de votre recherche avec des liens qui apparaissent, qui justifient en fait la réponse.
Et parce que l'enjeu, effectivement, beaucoup de gens vont sur ChatGPT ou autre pour faire des recherches en lieu et place de Google.
Exactement. Merci beaucoup, Christophe. Passionnant tout ça. Voilà, Google, 28 ans, dis donc.
28 ans.
Ça ne nous rajeunit pas, monsieur.
Mais si.
Mais oui.
Pas jeune.
Bon, ça va, on s'en sort bien.
Pas mal.
Allez. À très vite, Christophe.
À très vite.
Christophe qui régulièrement vient nous voir pour nous raconter toute la tech de ces dernières années. Ce de quoi je me mêle est terminé, les amis. Un grand merci de nous avoir suivis. Les réseaux sociaux, on compte sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page BFM Tech pour suivre tous les deux quoi je me mêle chaque semaine, si ce n'est déjà fait. Et puis, si vous êtes avec nous en podcast audio, dans un instant, quelques minutes supplémentaires avec toujours Anthony Morel et Pierre Fontaine. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.